C'est une partie de cette édition. Les minerais congolais qualifiés par l'Union européenne, les Nations unies ainsi que quelques organisations internationales de minerais de sang ne profitent pas aux populations congolaises. Ce sont plutôt les pays destinataires qui tirent les dividendes. C'est ce que Gabriel Wamenya nous en parle dans ses dossiers. Suivez.
Dans son analyse, l'ONG PDH estime que toutes les mesures et conditions imposées par l'Union européenne, les États-Unis et quelques organisations internationales pour la vente des minerais congolais constituent l'un des obstacles majeurs à sortir des milliers de Congolais de la misère. C'est pourquoi Dunia Joseph, coordonnateur de l'ONG PDH, propose aux décideurs la création d'un fonds de compensation en faveur des Congolais.
Les Congolais restent pauvres et pourtant les minerais continuent à être vendus. L'équipe de discussion que nous sommes en train de créer va discuter avec les décideurs, avec les acheteurs, pourquoi pas avec les industries des pays destinataires des minerais, pour qu'ils puissent donner aux Congolais un fonds de compensation. Ce fonds de compensation va servir à créer des infrastructures de base.
Les recettes générées par les activités minières pourraient être réinvesties dans d'autres types de capital pour un développement global du pays, ainsi que celui des entités où sont produites ces richesses minières, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dunia Joseph.
Lorsque vous voyez les organismes qui sont chargés d'auditer l'achat des minerais congolais, leur sécurité sociale, c'est dans leur pays. Aujourd'hui, on dit que le réservoir mondial des coltans, c'est le Congo. Mais si on crée ces sociétés autour de ces sites-là, vous allez voir que tous les groupes armés vont fuir. Ils ne vont pas avoir l'état de commencer à tuer leurs compatriotes.
Il est évident que les minerais congolais ne profitent pas à ses propres citoyens. Cette réalité pourrait-elle constituer un leitmotiv pour que les pays destinataires des minerais congolais, l'Union européenne et les Nations unies payent une redevance aux Congolais? Christian Chaudy, participant et opérateur économique.
On ne peut revendiquer que quelque chose dont on sait le prouver. Il y a des mesures internes et internationales qui mettent de l'harmonie entre les individus et les États congolais. Mais ce qui est vrai est que les États étrangers ont beaucoup bénéficié du minerai congolais. Il faut une certaine dose d'implication de tout le monde pour que beaucoup de profits restent au Congo.
De son côté, l'ONG Credo pense qu'il y a plusieurs facteurs qui favorisent la fraude minière en RDC en faveur d'autres pays. Corneille Semakuba explique.
L'augmentation des taxes sur le produit minier est désavantagé au niveau du peuple congolais. Le fait que chaque fois qu'on augmente les taxes, il y a les pays limitrophes de la RDC qui vont bénéficier de ces minéraux. Ça va créer la fraude de nos minéraux.
Les participants ont convenu à la fin de l'atelier de créer une équipe de lobbying qui pourrait discuter avec les décideurs au niveau national, régional, avec les Nations Unies et l'Union Européenne, la création d'un fonds spécial au profit des Congolais. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Et c'est avec Volkan Kosomoussière. Bonjour Volkan.
Bonjour Jacques-Yves Moliman et bonjour à vos très chers auditeurs. Les feuilletons électoraux restent à la une de tous les journaux parus ce matin à Kinshasa. Commençons donc avec les potentiels qui titrent sa une. Dauphin de Kabila, beaucoup de nominés. Matata Bahati, Mouiladian, Minaku, Tshibala, Makila. Tout dans la course, le journal révèle que tous les ténors du FCC se sont donné rendez-vous à Kingakati pour peaufiner les dernières stratégies en vue des élections du 23 décembre 2018, de ces ultimes réglages de Kingakati. Notre confrère pourrait probablement sortir un dauphin, c'est-à-dire celui à qui Kabila transmettra au nom du FCC les bâtons pour la présidentielle de cette fin de l'année. Entre-temps, l'horloge tournait à grands pas d'ailleurs. La majorité au pouvoir n'a plus que jusqu'au oui, tout pour lever une option définitive, prévient le potentiel. Et notre sujet, abordé par ces journaux, c'est la suspension de Mouzitou contre adhésion au FCC. Et pour le potentiel, Kabila réussit une pas sur les palous, entre adhérer au FCC, tout en voyant son entière allégeance au chef de l'État et désolidariser. Voulais-je dire, d'Adolphe Mouzitou, les palous a opté pour les seconds en suspendant l'ex-premier ministre pour indiscipline et trahison, reprend Actualité précédée sur son site internet. Quand les partis guizenguistes suspendent un militant qui n'a plus de fonction, forme des as, en tout cas parle d'un cas de conscience pour les palous, car la question qui se pose ronchirait le quotidien est celle de savoir si dans un parti politique l'on peut suspendre un militant. Toute la question est donc celle-là quand on sait que depuis plusieurs mois, Adolphe Mouzitou ne figure plus dans aucune structure. Dirigeant du parti, rappelle Forum des As, et à lire Actualité précédée, Adolphe Mouzitou, qui s'est déclaré candidat président de la République, a reçu le week-end dernier les soutiens des trois plateformes électorales à sa candidature. Terminons avec Tams.cd qui titre à sa une Bemba à Kinshasa, Kimbuta prend acte et promet la sécurité des mêmes crédits 1er août. Information que ces médias en ligne tirent de F. Bazaïba, secrétaire général du MLC, à l'issue de la réunion avec l'autorité urbaine. Et pour sa part, Katumbi demande l'autorisation d'atterrir ce vendredi 3 août à Lubumbashi.
L'invité. Le gouvernement congolais a bénéficié de près de 120 millions de dollars américains d'une banque basée en Égypte. C'est pour financer les secteurs agricoles en RDC. Le ministre de l'Agriculture, Georges Kazadi Kabongo, en parle avec Askin Zigbia.
Monsieur le ministre Georges Kazadi, bonjour.
Bonjour.
Nous apprenons que le gouvernement vient de bénéficier d'un prêt de 80 millions de dollars et que cet argent va surtout être investi dans le secteur de l'agriculture. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Merci, monsieur le journaliste. Exactement comme vous venez de le dire, le gouvernement de la République a obtenu 80 millions de dollars auprès de l'Afriximbank. C'est une banque régionale dont le siège se trouve en Égypte. Les 80 millions vont être investis dans le secteur agricole. Ils ont mis aussi sur la table 40 millions de dollars. Au total, ça fait 120 millions. Donc, au moment où nous avons diffusé ce communiqué, cet argent est disponible, comme nous l'avons dit.
Alors, monsieur le ministre, comment doit-on bénéficier de cet argent, surtout ceux qui ont des projets dans le domaine agricole?
Rappelez-vous, les jours de l'investiture du Premier ministre Bruno Tshibalanzinze, il l'avait bel et bien dit. La politique de mon gouvernement est basée sur l'agriculture. Et maintenant, nous avons obtenu cet argent. Nous allons prêter cet argent aux opérateurs économiques du secteur agricole. Ce sont eux qui sont les premiers bénéficiaires. Nous allons aussi donner l'accès aux petits producteurs. Nous avons publié il y a deux mois passés l'annuaire dans laquelle nous reprenons les agriculteurs territoire par territoire. Nous indiquons même là où ils sont et même la possibilité d'évacuation de leurs produits. Ces agriculteurs-là, ils ont droit à ce prêt, puisque ce sont eux qui soutiennent l'autosuffisance dans les territoires comme dans les groupements et dans les villages. Vous pouvez déposer votre demande d'un projet bancable. Quand on parle de projet bancable, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est-à-dire, c'est un projet capable de produire des bénéfices et qui vous donne la possibilité de rembourser. Donc, ce n'est pas l'argent gratuit. Ce sont des prêts, des crédits, mais avec de meilleures conditions. Le gouvernement ne va pas se limiter à donner cet argent et croiser les bras. Non, il va continuer à mener ses actions habituelles. Par exemple, la distribution des intrants agricoles. C'est pour soutenir, c'est pour leur donner beaucoup plus de pouces, en fait, qu'ils puissent réellement produire, pas seulement pour consommer, mais pour créer la richesse. Avoir des possibilités de faire soigner leurs enfants, de payer les frais scolaires de leurs enfants et même d'améliorer leur vie.
Dites-nous, monsieur le ministre, avec ces fonds, vous allez vous limiter seulement à financer rien que le projet agricole?
Les fonds, c'est le soutien du gouvernement à l'agriculture. Il y a plusieurs paramètres quand on parle de l'agriculture. On ne peut pas cultiver sans disposer les moyens d'évacuation. Donc, les routes de dessert agricole sont aussi dans ces projets. Je voudrais souligner ici, devant votre micro, que parmi les projets, il y a aussi les projets dans le secteur d'élevage et pêche. Il y a aussi les projets pour entretenir les routes de dessert agricole qui accompagnent l'agriculture. Puisque quand on parle de l'agriculture, les gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'avoir des fermes, des champs, cultiver. Vous allez cultiver et comment vous allez évacuer votre produit?
Tout à fait, mais il se pose un problème. Souvent, c'est la gestion. Vous pouvez nous rassurer comment ça peut être géré d'une façon transparente, cet argent?
Je sais de quoi vous voulez parler. Puisqu'il y a eu plusieurs tentatives dans d'autres secteurs, ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, moi-même qui vous parle, je suis à la tête de cette structure pour la gestion. Après avoir donné l'argent, j'ai mis en place toute une commission de supervision et de suivi. Nos agronomes, nos moniteurs seront mis en contribution. Ils ne vont plus rester dans leur bureau pour venir à 13h et retourner à 14h. Ils vont aller sur le terrain, là où se trouve le ferme. L'État va leur donner le moyen de se déplacer. Vous verrez, il y aura des motos qui vont permettre à ces agronomes d'atteindre les milieux où ces gens sont en train de travailler. Mes collègues de l'infrastructure, et celui du développement rural. Et aussi de leur côté, ils sont en train de travailler. Donc, vous allez voir, nous avons mis vraiment des mécanismes de rigueur en place. C'est pour vous dire que le gouvernement a pris au sérieux et nous, on est là pour matérialiser la volonté du président de la République.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Okapi Sport. Bonjour Dieudonné Kabiyangalula.
Bonjour Jacques-Yves Moulima, cher militaire. Ah oui, également bonjour. Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, Tanzanie 2019, tournoi de l'UNIFAC, Union des football, des fédérations de football d'Afrique centrale. Les Léopards cadets de la RDC joueront le 3 août 2018 prochain un match d'ouverture. Leurs homologues du pays organisateur, les jeunes Alangues de la Guinée équatoriale, à Bata. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi après-midi en Guinée équatoriale. En groupe A, basé à Bata, on retrouve la Guinée équatoriale, la RDC, le Congo-Brazzaville et Sao Tomé-Principe. Groupe B, basé à Malabo, Cameroun, République centrafricaine et Tchad. La compétition se jouera du 3 au 13 août 2018. En ce qui concerne la zone COSAFA, Conseil des associations de football d'Afrique australe, c'est l'Angola qui s'est qualifié pour la phase finale. Les jeunes angolais ont dominé en finale les jeunes sud-africains sur le score de 1-0. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a assisté à cette rencontre. Le tournoi avait eu lieu donc en île Maurice. Interclub de la CAF, après sa qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, à la suite de son match nul 1 contre 1 face au Mouloudia d'Alger, les tout-puissants Mazembe installés à Oran, au nord-ouest de la capitale Alger, sont camp de préparation pour le match de la cinquième journée contre l'Entente sportive sétifienne. Initialement prévu au Maroc, les dirigeants de Mazembe, pour raison de proximité, ont changé d'avis pour descendre à Oran. Déjà qualifié, les tout-puissants Mazembe jouera l'Entente sportive sétifienne samedi le 18 août 2018. La victoire de l'ASV Club dimanche dernier sur la formation d'Adouana Stars du Ghana au stade des Martyrs lors de la quatrième journée de la phase des poules de Coupe de la Confédération a été motif de joie de plusieurs sportifs congolais. Enoch Matondo a tendu son micro à un d'entre eux qui donne sa lecture de ce match.
Je suis ému, il y a vraiment la joie comme vous le voyez. Nous sommes satisfaits parce que nous avons maintenant 7 points. C'est déjà un acquis vers le quart de finale.
Comment vous avez vu l'équipe jouer aujourd'hui?
Dans l'ensemble, ils ont bien joué, mais il y a eu en deuxième mi-temps, au niveau de la médiane, il y a eu quelques déchets.
L'absence de Padou Bompunga ou celle de Bangala?
Oui, nous avions senti. Il y avait deux erreurs défensives, mais malgré ça, ça ne nous a pas coûté. Mais prochainement, leur présence est vraiment nécessaire.
Le dernier club, Motema Pembe, a tenu son assemblée générale ordinaire ce lundi. Le bilan a été déclaré positif. Les rapports administratifs financiers adoptés et tous les joueurs déclarés transférables, sauf deux, selon le secrétaire général Mandjikou.
Au niveau de l'Assemblée, nous avons fait notre devoir de laisser la liberté en déclarant tous les joueurs transférables. Mais pour l'instant, avec certitude, je peux vous dire qu'il y a deux joueurs qui sont partis. Le dernier, c'est Dago Tshibambe, avec qui nous nous sommes concertés avec le dirigeant de son équipe d'origine, qui est le Football Club Famago. Pour l'instant, il se trouve en Russie.
Et le dossier Bangala?
Bangala, il est fin contrat au niveau de l'association sportive et club depuis le 15 juillet de cette année. Il est à la disposition de Derek Club Motema Pembe. Je pense que le comité se réunira dans les jours qui viennent pour définir la situation administrative de ces joueurs.
Des propos recueillis par Enoch Matondo, les budgets du Dering 2018-2019 est passé de 2 à 4 millions de dollars. Les comités sollicitent la contribution de tous les Imaniens.
Merci Dieudonné. Il est 7h30 à Kinshasa. C'est aussi la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.